Salut à tous, salut tout le monde, salut, salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce second webinaire, comment savoir ce que je veux vraiment, partie 2, on va parler aujourd'hui technique, c'est-à-dire je vais vous donner des exercices, je vais vous donner des réflexions, on va parler de comment on arrive à définir ce qu'on veut vraiment. Ça me fait plaisir de vous voir déjà assez nombreux, c'est cool, merci d'être là. C'est vraiment génial. Merci à ma team chérie, Farah, Marie qui sont là ce soir. Et un spécial dédicace à Kevin qui est là à chaque fois, mais qui ne pouvait pas se rendre disponible ce soir. On est avec toi, mon ami. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Je vois qu'il y a aussi mes référents préférés. C'est tous les gens qui m'assistent sur le programme. Tout est possible. Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous les autres. Ça me fait plaisir de vous voir, vraiment, c'est cool qu'on passe encore du temps ensemble. On en passe beaucoup, mais voilà, à chaque fois, c'est toujours un plaisir de vous savoir ici, ou en tout cas pas loin. Bon, comment allez-vous tous? Est-ce que bien, vous m'entendez bien si vous me l'auriez déjà signalé? Un petit 5 sur 5 sur le son et l'image. OK. Salut Marie. Salut tout le monde. Allez, si un petit 5 sur 5... On va démarrer tout de suite. Une personne simplement pour me le dire. Voilà. Merci Maryse. Merci Farah. Merci Laurent. Merci tout le monde. OK. Donc maintenant qu'on est prêt techniquement, que l'image est bien et que le son est bien, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment savoir ce que je veux vraiment? Donc ce webinaire, c'est le deuxième qui fait suite à un premier où on a parlé de... En fait, de la théorie hein, de ce que je veux vraiment, c'est-à-dire la différence entre ce que je veux et ce que je veux vraiment. Le fait que d'abord, c'est une question extrêmement importante à se poser. Donc, si vous n'avez pas vu cette première partie, je vais vous la résumer en quelques minutes. La question est importante parce que ce que je veux vraiment est quelque chose qui va déterminer le chemin de votre vie. On a toujours le sentiment... pendant une bonne période de notre vie, qu'en fait, on ne choisit pas, que ce qu'on vit est quelque chose qui, la plupart du temps, est construit à travers les situations qu'on traverse et qu'en gros, bah, en fait, au mieux, on s'amuse avec et au pire, bah, on subit. En fait, quand on regarde un trajet de vie et qu'on s'intéresse au comportement humain, qu'on s'intéresse aux mécaniques du raisonnement, aux mécaniques du comportement humain, on se rend compte qu'en réalité, sur tout, on a la main. Sur tout. Même si aujourd'hui, vous seriez nombreux à essayer de me prouver le contraire, on a des études, on a des exemples de gens qui reprennent leur vie intégralement. Moi, j'étais dans ce cas-là, c'est-à-dire j'ai fait partie de ces gens qui ont pensé pendant très longtemps qu'ils n'avaient absolument pas la main sur ce qui se passait dans leur vie, qui étaient obligés de supporter les gens et les situations, qui étaient obligés de se confronter aux événements. Et j'avais le sentiment qu'en fait, il n'y avait absolument aucune possibilité pour moi de décider les choses. Okay, c'était le sort, au mieux. Au pire, c'était de toute façon des gens mal intentionnés, mais c'était compliqué de comprendre que je pouvais reprendre ma vie en main et que je pouvais la créer telle que je la voulais vraiment. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai beaucoup travaillé. Ça fait 25 ans que je travaille sur moi. Ça fait 25 ans que je me remets en question. Et surtout, ça fait 25 ans que je fais des expériences. Et ces expériences m'ont permis de savoir que, à partir d'un angle particulier, il est largement possible de prendre la main sur l'intégralité des choses. La direction qu'on va donner à notre vie, c'est le sujet de ce soir, comment savoir ce que je veux vraiment, mais aussi la direction qu'on va donner à nos relations, la direction qu'on va donner à notre couple, la direction qu'on va donner à notre rapport avec nos enfants, avec nos amis, avec notre famille. Et à partir du moment où on comprend ça, c'est un principe de responsabilité, finalement assez simple à comprendre. Quand on a compris le principe de responsabilité et qu'on sait poser des outils qui sont extrêmement simples, dont certains que je vais vous donner ce soir, eh bien, on peut reprendre sa vie en main. J'ai travaillé personnellement 6 ans pour essayer de voir à quel point moi-même, j'étais capable de reprendre ma vie en main, et à quel point moi-même, j'étais capable de comprendre suffisamment les choses, c'est-à-dire pas uniquement reprendre ma vie en main, mais comprendre les systèmes, les leviers qui se mettaient en place dans ma vie, comment je les orientais et quels résultats j'obtenais pour finalement modéliser ce que j'ai appelé le processus de matérialisation. Ce processus de matérialisation que j'ai évidemment testé en proposant aux uns et aux autres, et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ça marche pour tout le monde. Le processus de matérialisation est un truc extrêmement simple à comprendre, et à partir du moment où en fait on a déterminé, comme ce soir, on va le faire, la direction qu'on veut donner à notre vie, alors ce processus de matérialisation va nous permettre de faire toutes les expériences qu'on souhaite dans la vie. L'expérience d'une vie simple, tranquille, paisible et heureuse, l'expérience du confort matériel, l'expérience de l'argent qui arrive, l'expérience des amis, l'expérience des amours, l'expérience d'une relation qui peut être extrêmement belle, l'expérience de exactement ce que vous voulez. Et en fait, aujourd'hui, on l'explique, notamment grâce aux neurosciences et à d'autres aussi, à d'autres types d'expériences, mais aujourd'hui, on explique parfaitement le chemin parcouru avant la réalisation de quelque chose, que ce soit une situation, j'ai créé une situation merdique, ou bien j'ai créé une situation géniale. On sait expliquer le chemin pour ça. Aujourd'hui, le développement personnel sait l'expliquer. Aujourd'hui, des experts sur l'énergie comme moi savent l'expliquer, mais aujourd'hui, la science sait l'expliquer. Donc aujourd'hui, croire qu'il n'existe pas de moyen d'avoir la vie que je veux, aujourd'hui, c'est une aberration. C'est une aberration parce que ça fait, on va dire, 10 ans qu'on sait véritablement le faire. Alors évidemment, ce sera peut-être rentré dans les mœurs dans 20 ans et peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, vous vous direz « Ah bah ouais, j'ai été con parce qu'en fait, ça a existé, mais je n'y ai pas cru. » Mais ça existe. Ça existe, c'est avéré techniquement, c'est avéré scientifiquement et c'est avéré aussi par l'expérience puisque là, ça fait bientôt la 8e année que je continue d'enseigner le processus de matérialisation et que je vois des gens qui reprennent leur vie en main d'une façon exceptionnelle et qui bâtissent des choses absolument géniales, que ce soit des entreprises, que ce soit des relations heureuses, que ce soit des retrouvailles, que ce soit de l'argent, que ce soit peu importe en fait, tout ce qu'ils ont envie de vivre et d'expérimenter, en fait, ça arrive. Donc, pour ponctuer ce chemin avec des jalons qui sont des jalons sûrs, c'est-à-dire pour être certain qu'à un moment donné, j'ai tout en main pour pouvoir vivre la vie que je veux vraiment, eh bien, je dois savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Et donc, c'est aujourd'hui un point essentiel du processus de matérialisation qu'on voit ce soir. Et après, si vous voulez voir les autres avec nous, ben en fait, aujourd'hui, on est 700 à travailler ensemble tous les jours sur le processus de matérialisation et son apprentissage. Enfin, l'apprentissage est très rapide. L'apprentissage, il prend 15 jours exactement. Mais après, c'est la mise en place, c'est l'expérimentation du processus. Et on se voit 3 fois par semaine avec tout le groupe, les 700. Et en fait, on travaille ensemble pour justement améliorer la performance, l'application, la compréhension du processus sur un terrain d'entraînement qui est juste un groupe Facebook. On se voit et en fait, on travaille ensemble et moi, je continue de travailler. Donc moi, je suis passé avec ce processus de matérialisation d'une vie. Quand j'ai démarré, ça allait déjà franchement bien. Je n'ai pas démarré dans le creux de la vague. J'ai démarré dans le creux de la vague mon travail personnel. Mais plus tard, en fait, ce travail personnel, il a payé. Et à un moment donné, j'étais dans une vie qui était plutôt OK. J'avais une société qui fonctionnait bien. J'avais une vie amoureuse qui était OK, qui était bien, franchement. Tout était plutôt cool, quoi. Et en fait, j'ai trouvé le processus de matérialisation et j'ai commencé à vouloir le travailler sur des sujets qui étaient des sujets importants pour moi, sur lesquels j'avais le sentiment qu'en fait, je peinais à réussir, et notamment les liens familiaux. J'ai commencé là-dessus. Et en fait, aujourd'hui, je m'entends parfaitement avec ma famille. J'ai travaillé comme ça toutes les phases de ma vie, tous les domaines de ma vie. Alors, il y a des sujets que les gens sont contents d'entendre quand je leur dis que, justement, avec ma famille avec laquelle j'ai eu vraiment des très, très, très grosses difficultés à communiquer pendant 45 ans, hein, c'est pas rien, hein, pendant 45 ans. Et bien, d'un seul coup, avec le processus de matérialisation, et à peine en quelques mois, en fait, 3 mois exactement de travail avec ce processus, toutes les portes sont ouvertes et aujourd'hui, on vit quelque chose de vraiment merveilleux tous ensemble. On est hyper unis, on s'est retrouvés et c'est génial. Alors ça, c'est facile à entendre. Il y a des choses qui sont plus difficiles à entendre. Je suis passé de revenus qui étaient, on va dire, corrects à des revenus qui sont plus qu'énormes. On a On a engagé quasiment, on a fait quasiment 12 millions d'euros. Donc, c'est une société qui va très, très bien. J'ai un parcours professionnel qui va très, très bien. J'ai créé une entreprise il y a quelques années, à peine, ça fait 3 ans maintenant. J'ai créé une entreprise une société de production à Paris. Je fais des films pour le cinéma et la télévision. Et en fait, ça fonctionne très bien. Il y a un film qui va sortir bientôt sur Netflix. On est déjà en train de préparer 2 autres films. Donc, ça va très bien. J'ai créé aussi une société avec ma fille. On fait des vêtements de moto qui est en stand-by pour le moment parce qu'elle est à Milan et elle travaille comme mannequin. Et donc, voilà, on la développera un peu plus tard. C'est pas grave. De toute façon, il n'y a rien qui presse. Mais tout va bien, en fait. Tout va très, très bien. Et donc, ça, c'est le truc le plus compliqué à comprendre pour les gens qui disent non, il ne peut pas y avoir de baguette magique pour que d'un seul coup, la vie financière, elle soit si riche. Bah, si, écoutez, voilà. Et puis, en plus, je ne suis pas le seul. Il y a même des gens ici qui participent à ce que je vois dans le chat, qui eux-mêmes ont multiplié leurs revenus par X et sont dans des situations dans lesquelles c'est pas les mêmes que quand ils ont démarré sur le processus avec moi. Donc, oui, on peut gagner sa vie, on peut être heureux dans le travail. Et puis, évidemment, un des gros chantiers qui me tenait vraiment à cœur, c'est une histoire d'amour. Et vraiment, aujourd'hui, je suis le mec, je pense, le plus heureux du monde dans une histoire absolument géniale. Et voilà, et le temps s'écoule comme chaque seconde est un cadeau, quoi. Donc voilà. Donc ce processus fonctionne. Moi, je l'applique à la lettre. Je ne cherche pas à savoir comment je peux contrôler ce processus. Ce processus est extrêmement simple. Et à partir du point de départ de ce qu'on va voir ce soir, eh bien, vous pouvez déterminer une vie et en fait, ce que vous voulez vraiment plus le processus de matérialisation, eh bien, c'est tout droit vers le bonheur. Voilà, j'ai absolument pas de problématique à parler de ça. J'en aurais peut-être eu il y a encore une dizaine d'années, mais j'ai pas de problématique à parler de ça parce que je ne suis pas le seul, je veux dire, à vivre ce truc-là. On est très, très nombreux et aujourd'hui, dans le groupe des 700 qui travaillent ensemble, là, tous les jours, ben en fait, il y a chaque jour des gens qui révèlent des choses magnifiques qu'ils vivent, des états ou des situations qui les mettaient dans des états particuliers terribles. Aujourd'hui, ça va vraiment mieux. Ils trouvent le calme, ils trouvent la paix, ils trouvent la sérénité, etc. Donc, ça existe, ça fonctionne. Et donc, les exercices que je vais vous donner ce soir sont tirés de ça. Et je vous en fais cadeau parce que je pense que c'est très, très important de savoir faire ça dans sa vie. Je ne vais rien vous demander en échange, je m'en fous. La seule chose que je peux vous demander, c'est de télécharger le cadeau que j'ai déjà offert au premier webinaire. Donc voilà, à un moment donné, Marie ou Farah mettront le lien du cadeau et vous pourrez le prendre. C'est pareil, c'est gratuit. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous parce que vous êtes là, parce que vous me proposez votre temps et parce que voilà, on va avancer ensemble et travailler ensemble. Donc, c'est génial. Si ça fait plus de gens heureux dès ce soir ou demain matin, alors moi, je suis le mec le plus content du monde. OK ? Donc voilà. Donc, on avait vu dans le précédent webinaire qu'en fait, ne pas savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que c'est l'occasion pour les autres de le savoir à notre place. Moi, j'avais appris dans une conférence que j'avais entendue d'un Québécois que j'aimais beaucoup à l'époque. Il disait de toute façon, si tu ne crées pas tes propres projets, tu créeras les projets des autres. Donc, si t'es pas dans ton projet, tu seras dans le projet d'un autre, quoi. Et en fait, cette phrase m'a fait peur parce que je me suis dit que ça ne concerne pas. Je pense que tout le monde l'entend plus ou moins au sujet du taf, mais en réalité, non, quoi. Je me disais, mais en fait, c'est si je crée pas ma propre vie amicale avec mes potes, en fait, je serai dans le projet des autres. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont choisir que je suis leur ami. Mais en réalité, est-ce que moi, j'aurais vraiment choisi cette amitié-là? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me sera favorable? Ça, quand je regardais ma vie à l'époque, je me disais, en fait, je suis dans le projet amical de cette personne. C'est cool, mais moi, je pense pas avoir véritablement choisi ce type de relation, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que, j'étais dans le projet de plein de monde à plein d'endroits. Et que surtout, ça m'obligeait aussi à faire des choix dans ma vie qui étaient des choix qui étaient déterminés par les autres, quoi. Donc voilà, ça, c'est vraiment extrêmement dur, en fait, de savoir qu'en fait, chaque jour, on avance dans les pas de quelqu'un d'autre, en fait. Et on fera jamais nous-mêmes nos traces dans la neige parce qu'on est obligé de marcher dans les pas de quelqu'un, sinon on est perdu. Si on s'éloigne, si on s'écarte de ce rail-là, eh bien, en fait, on est paumé, quoi, parce qu'on n'a jamais réfléchi à où on va, pourquoi faire, avec qui, comment, et ce sont des questions qui sont essentielles, quoi. Donc on se laisse influencer par les autres ils dirigent notre vie, ils nous imposent tous leurs projets, ça donne des situations où on se sent abusé, où on se sent, on a le sentiment qu'on est emporté dans quelque chose qu'on n'a pas voulu. Enfin bref, ça ressemble pas au bonheur tout ça. Et puis après, quand on se pose pas cette question, on se dit bah en fait qu'est-ce que je veux dans ma vie ? En fait, on focalise sur les objets, on focalise sur la maison, la voiture, le chien, le truc. Mais en fait, on focalise pas sur la vraie question. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Dans ma relation avec mes amis, qu'est-ce qui me plaît ? Et en fait, on a vu ça déjà dans le premier webinaire. Donc vraiment, prenez le temps de regarder ce premier webinaire si vous l'avez pas vu. Et vraiment regarder vraiment la puissance que ça a, ces exercices, parce que c'est quelques questions qui sont parfois des questions assez anodines, en fait, démontrent des choses qui sont, en tout cas, éclairent des choses qui sont profondément importantes pour nous, et que si on se les accorde pas dans notre vie, on sait que c'est la misère assurée, quoi, ou c'est la déprime ou d'autres choses comme ça. Et je crois que personne ne mérite ça. Et c'est pour ça qu'on fait ces webinaires, et c'est pour ça qu'on vous les offre, et c'est pour ça qu'on offre ces outils, parce que personne ne mérite ça. Je vois ton message, Ariane, avec Laurent et le processus de matérialisation. Je suis passé de prof de PS à entrepreneur plus cofondatrice d'une agence d'événements, directrice d'un organisme de formation, et tout ça en 5 ans. Donc oui, ça existe. Ariane, magnifique, bravo, c'est vraiment génial. Petite question, c'est bon de se poser trop de questions. En fait, ça dépend des questions qu'on se pose. Si on se pose des questions pour se maltraiter, mon cher Patrice, il n'y a pas d'intérêt. Si on pose des questions pour gagner en efficience et faire une vraie économie d'énergie, c'est-à-dire bâtir autour de soi un processus écologique dans nos relations d'amour, dans nos relations d'amitié, où vraiment on gagne en énergie, on gagne en connaissance, on gagne en un merveilleux moment, alors ça, oui. Mais en fait, ces questions, elles ne sont pas très nombreuses. Il n'y a pas besoin de se poser des questions. Là, je disais dans le webinaire précédent, je disais qu'en gros, les deux questions à se poser, c'est qu'est-ce qui m'intéresse de vivre et de ressentir ? Donc, c'est qu'est-ce qui m'intéresse de vivre et de ressentir ? C'est qu'est-ce qui m'intéresse de vivre et de ressentir ? C'est quand même une question quand même extrêmement simple. Et ensuite, quel type d'expérience j'ai envie de vivre ? Quel type d'expérience j'ai pas envie de faire ? Mais j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre quoi, en fait? Et donc, du coup, c'est intéressant parce que quand on commence à se poser la question, alors c'est pas forcément une réponse qui arrive dans la seconde. Peut-être qu'il nous faut un peu de réflexion. Mais quand on se dit, mais en fait, moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est, je sais pas, j'ai envie de louer un truc, foutre un matelas dedans et puis me casser, je sais pas, dans la montagne et faire un road trip comme ça pendant 3 mois ou 6 mois, être à mon compte et puis travailler depuis mon ordinateur partout. Je fous mon camion sur une place de village et puis voilà, je travaille, je réponds à mes mails et c'est OK. Et en fait, je gagne suffisamment d'argent pour être totalement autonome. Je vis seul ou avec ma chérie et puis on se casse, on va ici et là. Déjà, rien que se poser cette question et dire, moi, en fait, c'est ça que j'ai envie de vivre. On sait pas si ça va nous plaire. On sait pas. On a juste envie de faire ce type d'expérience. Moi, quand je me posais ces questions-là, je me disais, moi, en fait, j'aimerais bien un jour prendre ma bagnole, me casser dans un endroit où on peut sauter en parachute et puis sauter, quoi. Voilà. Et en fait, je l'ai fait 2 fois, mais je suis pas certain que la question m'était pas venue, qu'est-ce que tu as envie de vivre pour ressentir? Moi, j'avais envie de ressentir quelque chose de puissant. J'avais pas envie de sauter en parachute. Ça a pas de sens pour moi. Mais me jeter dans le vide, ça en a du sens. Alors peut-être que ça en a pas pour tout le monde, mais moi, je me disais, il faut que je fasse ça. La même chose, j'en parlais la dernière fois, c'était rire avec mes amis. Ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi, qui est même plutôt logique. D'ailleurs, on va le voir dans un des exercices. Donc, la première chose à se rappeler techniquement, c'est de poser cette question. Okay, c'est de poser cette question. C'est qu'est-ce qui m'intéresse de vivre ? Qu'est-ce qui m'intéresse de vivre et de ressentir ? Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a intéressé de vivre et de ressentir que vous aimeriez aussi vivre et ressentir demain ? Moi, tout à l'heure, je suis allé plonger dans la piscine. Je sais que je peux aussi passer à côté parce qu'il faut répondre aux mails, parce qu'il y a du travail, et parce que voilà, et puis parce qu'il faut préparer le webinaire, etc. Mais en fait, je sais que c'est ça que j'ai envie de ressentir. Je sais que j'ai envie de prendre un temps pour ce genre de truc parce que je sais que ça me fait du bien. Et donc, tout à l'heure, voilà, je suis jeté dans la piscine. Et ça m'a fait du bien, et c'était un moment calme, c'était un moment tranquille, puis c'est un moment aussi dans lequel on se réénergise, évidemment. Et voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher des choses extrêmement glorieuses, mais c'est qu'est-ce que j'aime vraiment vivre, qu'est-ce que j'aime vraiment ressentir. J'ai passé du temps avec mon fils, il était sur son lit, je me suis allongé avec lui. En fait, on est resté là un moment et en fait, on a discuté un peu, c'était cool. Voilà. J'ai envie de ces choses-là, je n'ai pas besoin de ces choses-là, j'en ai envie. Et donc, du coup, bah, je vais me les autoriser parce qu'en fait, elles sont sur ma liste. Alors aujourd'hui, qui n'est plus une liste réelle, mais je vous invite à en faire une. Hein. Il n'y a rien de plus efficace qu'un papier et un stylo. Mais sur ma liste, qui est la liste spontanée aujourd'hui, de me dire qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Eh bien, du coup, il y a ces choses-là. Et comme je suis en capacité de le faire, bah, je le fais. Être ici aussi, être ici avec vous, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime ça, en fait. J'aime pouvoir partager les outils, j'aime pouvoir partager cette idée qui paraît un peu folle, qui l'est de moins en moins chaque année, parce que les gens commencent à comprendre qu'effectivement, il peut y avoir, peut-être qu'ils sont passés à côté de nouveautés dans la découverte des outils du fonctionnement humain, des outils qui peuvent effectivement nous emmener vivre ce qu'on veut. Aujourd'hui, pour avoir interviewé des gens qui ont bâti des choses extraordinaires, que ce soit Tony Parker, je sais pas, Yannick Noah, Jean-Claude Van Damme ou Dorine Bourneton, Aline Peugeot, tous ces gens qui ont construit des choses extrêmement fortes, qui vivent des choses extrêmement Philippe Gillet, qui vivent des choses extrêmement incroyables en fait du point de vue de tout le monde, mais qui est juste leur kiff à eux, pour les avoir interrogés pendant les 36 heures, je me suis rendu compte que ils font inconsciemment ce que nous, on propose dans le processus de matérialisation. C'est-à-dire qu'en fait, le succès existe depuis toujours, mais on n'a jamais véritablement interrogé les gens qui ont du succès en leur demandant, en leur posant les bonnes questions. Et en fait, quand on leur pose les bonnes questions, en fait, les réponses arrivent. Et en fait, ça fait souvent rire la salle, parce que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le processus de matérialisation. Et quand on entend un Tony Parker qui dit « bof », en fait… Parce que dans sur le terrain d'entraînement, il y a un principe de répétition, par exemple. On travaille l'outil en permanence. Et en fait, il dit, ouais, tu sais, moi, j'ai toujours pratiqué un truc qui s'appelle shoot the rock, tu vois. Et en fait, shoot the rock, c'est, c'était mon père qui me disait ça. Tu imagines que tu as un énorme rocher et que tu as un petit marteau. Comment tu vas casser l'énorme rocher avec ce petit marteau? En fait, tu ne peux pas taper et casser le rocher, il est trop gros. En revanche, si tu tapes comme ça en permanence sur le rocher, à un moment donné, bam, il va casser. Et Shoot the Rock, c'est comme ça. Il dit, moi, en fait, je pensais pas au résultat, je pensais à y aller, et le faire. Et donc ça, c'est quelque chose que je répète en permanence dans TEP. Et en fait, la salle rit. En fait, il dit, qu'est-ce qu'il y a, ils se foutent de moi? Je lui dis, non, en fait, ils se foutent pas de toi. En fait, c'est ça qu'on travaille ensemble. Et en fait, quand il y a un mec comme ça qui vient valider ce processus-là, qui est, on le voit tous, hein, c'est extrêmement simple, hein, et qu'on voit qu'en fait, bah, c'est un des éléments qui fait que le processus de matérialisation se met en route, bah, en fait, pour moi, c'est hyper important. En fait, aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, on sait le faire. Aujourd'hui, on l'enseigne. Il n'y a pas besoin d'être sorti des grandes écoles pour le comprendre. C'est extrêmement simple. C'est accessible. C'est fun. Et donc, du coup, ça change la vie des gens en à peine quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc, voilà. Donc, ça existe. On est là pour vous le partager. Et on va vous partager des outils ce soir. OK? Merci, Farah, de partager le… Merci, Farah, de partager le cadeau. Parce qu'effectivement, il y a donc un cadeau pour repartir de zéro. C'est-à-dire, quels sont les éléments, sur les bases sur lesquelles on peut s'appuyer pour repartir de zéro. Et donc, c'est super intéressant. J'aime pas trop cette formule, mais on s'en sert parce que tout le monde la comprend. Parce qu'en fait, on repart jamais de zéro. Il y a des gens qui disent, ouais, j'ai démarré une nouvelle vie ou j'aimerais démarrer une nouvelle vie. Je vois pas comment tu peux démarrer une nouvelle vie. Tu vois, même si je sais que c'est une expression second degré, moi, j'aime bien savoir qu'en fait, je prolonge celle-là, mais celle qui s'est toujours passée jusqu'ici, dans laquelle je ne choisissais pas, je subissais, eh bien, elle va se continuer, mais maintenant, c'est moi qui vais donner la direction. Et surtout, c'est moi qui vais être attentif chaque jour à ce que cette direction, elle ne part pas en sucette, que ça ne se termine pas, voilà, que je garde le cap et que ce cap est super important pour moi. Et les exercices que je vais vous donner là sont des exercices qui vont vous permettre de garder le cap. Donc, ces deux questions, Okay, qu'est-ce qui m'intéresse de vivre et de ressentir et quel type d'expérience j'ai envie de vivre. Ne vous trompez pas avec faire. Ce n'est pas des expériences que vous avez envie de faire, c'est des expériences que vous avez envie de vivre. Okay, qu'est-ce que vous aimeriez ressentir quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce que vous aimeriez ressentir quand vous êtes avec vos bonnes bandes d'amis, tout ça. Donc, dans le précédent webinaire, on avait vu sur différents domaines de la vie qui étaient perso déjà, moi-même, ma santé, mon corps, voilà, comment j'ai envie de me sentir. Ensuite, sur la profession, la contribution, comment j'ai envie de contribuer dans le monde. Ensuite, l'argent, l'amitié, la famille et l'amour. Donc, on a travaillé ça dans le précédent webinaire. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Okay, Christiane qui dit « Le processus de matérialisation m'a permis de simplifier véritablement ma vie en trouvant des solutions avec beaucoup plus de facilité. » Magnifique, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Merci Christiane. Quand on a pris les différents domaines de la vie, comme là, qu'on l'a fait la dernière fois et qu'on a commencé à se poser ces questions, en fait, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a comme une sorte d'énergie, comme une sorte de force, comme une sorte de puissance qui se réveille. Et cette puissance nous dit que finalement, alors c'est pas toujours très agréable parce que je vois aussi des clients qui râlent parce que ça leur est pas arrivé avant, parce qu'ils auraient adoré apprendre ça il y a 20 ans ou 30 ans. Et là, ne serait-ce que cet après-midi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui me disait « Putain, ça fait chier de savoir que j'ai perdu autant de temps. » C'est râlant. Mais en fait, quand on se pose ces questions-là, en fait, on se rend compte de quelque chose qui est extrêmement important dans la vie, c'est que on a le volant. Le volant de notre vie n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Le volant de notre vie est entre nos mains et en fait, la décision, le choix d'exprimer une direction, c'est-à-dire je veux que moi, ce qui m'intéresse dans ma vie de je sais pas, amicale, c'est de me marrer avec les gens. C'est pas, je veux pas des gens comme ça. C'est moi qui veux vivre ça. Et parce que je veux vivre ça, je vais créer un décor et des gens dans ce décor pour vivre ça avec moi. C'est pas contrôler les autres. C'est pas, je veux des amis qui soient comme ci et comme ça. J'espère qu'on est bien d'accord. C'est moi, qu'est-ce que je veux vivre? Et c'est une interrogation qu'on a peu. C'est une interrogation, l'interrogation de qui je vais mettre dans ma vie, qui je vais accepter comme ami, c'est quoi la liste de la personne idéale avec laquelle j'aimerais vivre, j'aimerais me marier, etc. Ça, on le fait tout le temps. Mais ça, c'est bullshit. Ça ressemble à rien. C'est absurde. Je sais qu'il y a encore des gens dans le développement personnel qui disent ça. Fais la liste des trucs. Non, en fait, c'est qu'est-ce que tu veux vivre, en fait? Qu'est-ce que tu veux ressentir dans ton corps? Comment tu veux kiffer? C'est quoi kiffer, quoi? Moi, j'ai commencé avec la volonté de rire. J'ai continué avec la jubilation. La jubilation, c'était un truc très important pour moi. Je me disais, en fait, j'aime tellement cette situation que je veux pouvoir me la proposer. Et pour que je puisse me la proposer, cette jubilation, eh bien, fallait aller dans des situations qui étaient parfois un petit peu risquées, mais dans lesquelles j'avais cette possibilité de vivre une situation jubilatoire à la fin ou pendant. C'est catharsistique, quoi. Moi, j'adore kiffer, quoi. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai envie, quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de ressentir? Quand on a posé ça, on se rend compte qu'en fait, putain, mais ça tient qu'à une décision, quoi. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment le volant dans les mains. Ça veut dire que ce que je crois de ma vie qui est maîtrisé ou contrôlé par d'autres gens, par mes parents, par mes beaux-parents, par mon mari, ma femme, en fait, tout ça, c'est une hallucination de mon mental, quoi. C'est un mensonge que je me raconte tous les jours parce qu'il suffit que je détermine comment j'ai envie de passer ma soirée. Et d'un seul coup, je change le cours des choses. C'est-à-dire que j'ai une impulsion sur le cours des choses. Il y a quelques années, on a eu dans le programme TEP un témoignage absolument extraordinaire quand on travaillait justement sur qu'est-ce que je veux vraiment. Et c'est le témoignage d'une jeune femme qui, aujourd'hui, quelques années plus tard, est devenue quelqu'un, pas proche, mais c'est une amie quand même, on ne se voit pas beaucoup, mais je l'aime énormément cette personne parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'est donné les moyens de comprendre le processus de matérialisation. Et pourtant, je pense que parmi les participants au programme TEP, c'est une des têtes de mule les plus obstinées que je connais. Mais elle a joué le jeu en se disant, il y a quand même quelque chose qui est intéressant là-dedans. Et en fait, elle a compris l'intégralité du processus de matérialisation Un jour, elle nous l'a raconté. C'est arrivé comme ça. Elle travaillait, évidemment, hein, mais d'un seul coup, sa vie a basculé parce qu'elle a compris ça. Écoutez bien. Elle raconte que le matin même, en fait, elle s'est pourrie avec son mari. Son mari, les mômes, s'est parti en cacahuète. Et en fait, ça a été une énorme engueulade. Énorme engueulade au réveil. Énorme, énorme, énorme. Mais vraiment un truc où elle dit, c'est violent, on se parle mal, ça s'insulte, on se jette pas des assiettes, mais presque. Bref, c'est la catastrophe. Ça explose dans la maison. Et elle dit, je pars en claquant la porte. Terminé. Donc, ça veut dire pas de réconciliation, pas de discussion, rien. Elle prend sa voiture, elle va travailler. Et donc, elle a un travail où elle enchaîne beaucoup de rendez-vous. Et donc, du coup, elle n'a pas le temps. Donc, elle voit qu'il appelle dans la journée, mais on s'en fout, terminé, ça va bien, quoi. Et le soir, elle rentre. Et en fait, dans la journée, j'avais fait un live, dans le matin même, j'avais fait un live sur justement qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait. Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre. Et elle se pose dans la voiture et elle dit, j'arrive avec la colère. J'arrive avec l'assurance qu'il a préservé sa colère aussi parce que je le connais. Et quand je vais rentrer, ça va repartir en sucette. Et en fait, j'ai décidé que non. J'ai décidé qu'en fait, j'avais envie de vivre une soirée heureuse, en fait. J'ai pas envie qu'il se taise ou d'avoir raison. J'ai juste envie d'avoir une soirée heureuse, en fait. Et ça, c'est moi qui vais l'apporter. Peu importe ce qu'eux, ils apportent, moi, j'apporte ça. Et en fait, elle dit, je me suis mis à respirer, on verra ça, l'exercice de la paix. Je me suis mise à respirer dans ma voiture et à aller me concentrer sur la paix et la tranquillité. Et en fait, quand je me suis sentie prête, j'ai fait monter cette joie, cette tranquillité, cette douceur avec laquelle j'avais envie de rentrer. Je suis descendu de ma voiture, j'ai claqué la porte, je suis arrivé sur le pas de la porte de la maison, j'ai pris une grande respiration, je suis rentré. Et en fait, j'ai envoyé mon rayonnement, ma fréquence, qui est une fréquence de tranquillité, de joie et de douceur. Elle me dit, on a passé une soirée juste géniale. On a discuté, on a rigolé. Et en fait, c'était vraiment une soirée incroyable. Super avec les gosses, super avec voilà, tous ensemble, dans un même mood. Et elle est arrivée avec ce mood-là et tout le monde a pris ce mood et s'est dit, OK, vivons ce truc parce que c'est quand même plus intéressant qu'une engueulade et que la volonté d'avoir raison. Et à partir de ce moment-là, parce qu'elle a compris qu'elle était en capacité de décider, mais aussi d'apporter quelque chose, c'est-à-dire de tracer sa route en fonction de ce qui lui convient vraiment, parce qu'elle a fait ça, elle a compris intégralement le processus de matérialisation. Et après, elle s'est mise à matérialiser plein de choses. Elle avait un projet d'achat d'immeuble, d'ailleurs, avec zéro fonds, et aujourd'hui, elle est propriétaire. Donc, il y a plein de choses qui se sont faites à partir de cette compréhension-là. Le processus de matérialisation étant véritablement quelque chose de miraculeux, je vous le dis. Si vous connaissez pas, intéressez-vous à ça. Vous allez voir sur mon site laurent-marchand.com et vous verrez que il y a vraiment de quoi faire. Ok, vous allez voir, tout est possible Laurent Marchand et vous trouverez. Ok, je suis pas là pour vous le vendre. Si vous voulez le faire, vous venez le faire. Si vous voulez pas, vous le faites pas. Moi, je suis là pour vous donner ces exercices. Il y a un exercice qui est l'exercice de base pour déterminer votre chemin. Ok. Vous ne pouvez pas déterminer votre chemin avec un cerveau qui a pour repères principaux des limites. Vous ne pouvez pas déterminer votre chemin avec un cerveau qui pense que la vie est compliquée. Vous ne pouvez pas déterminer votre chemin avec un cerveau qui pense que c'est votre mari ou votre femme qui contrôle et que de toute façon, vous n'aurez jamais la main sur ce que vous avez envie de faire, vos activités, tout ça. Tant que l'ego, le mental et le drama participent à la réflexion, vous ne le créerez pas. C'est même pas la peine. On a essayé, gagné du temps. Vous prenez pas la tête comme nous. On a fait des centaines d'expériences. Dès que l'ego, le mental et le drama s'invitent dans la réflexion, c'est mort. Il y a un état à partir duquel on peut faire un pont entre justement cette espèce de vie du chaos et un espace qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, à partir duquel on peut réfléchir raisonnablement. On peut décider les choses raisonnablement et on peut commencer à aller dans une direction qui nous convient vraiment. Et ce pont, c'est un état, c'est l'état de paix. Et cet état de paix, en fait, tout le monde le connaît, tout le monde. C'est quelque chose qu'on cherche, évidemment. Alors, c'est peut-être une surprise pour vous, mais l'état de paix, c'est la vraie quête pour un être humain. On croit qu'on va, on a envie d'argent pour pouvoir payer ses factures, etc. Non, non, on a envie d'argent pour être en paix. On a envie d'une relation d'amour heureuse pour être en paix, pour se sentir en paix. On a envie d'avoir des super potes pour être en paix. On a envie d'avoir un super job pour être en paix. On a envie d'avoir une super vie pour être en paix. La paix, c'est la quête ultime. On a envie de se coucher le soir et dire « Ah, putain, c'est cool, ça c'est la paix. » Ok ? C'est pas c'est avoir de l'argent, avoir des amis, avoir de l'amour, tout ça, c'est magnifique. Mais tout ça, c'est pour avoir de la paix. Donc, cet exercice de paix, quand on commence à y réfléchir, on se dit « Waouh, ça doit être un enjeu énorme. » Parce que si on mène notre vie pour avoir ça, ça veut dire que ça doit être difficile à avoir. En fait, pas du tout. La paix n'est pas conditionnée par quoi que ce soit. Ni la présence de quelqu'un dans votre vie, ni 100 000 euros ou 1 million d'euros sur votre compte. Je vous jure que non. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver leur paix avec 50 millions d'euros sur leur compte parce que la paix, c'est quelque chose qui n'a rien à voir et qui est complètement décorrélé de toutes ces foutaises dont on pense que ça va nous apporter la tranquillité. La paix, on l'obtient avec une expiration. Ah, c'est une expiration du soulagement. On se soulage dans une expiration. Et quand on fait ça, d'un seul coup, on se sent bien. On se sent calé dans notre fauteuil. Et on sent qu'on commence à rentrer dans un état qui est un état de sérénité et de quiétude. Cet état, vous le touchez entre à peu près 20 ou 25 fois par jour. Parce que votre corps pratique cette expiration du soulagement tout le temps. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans l'émotion de la vie, que vous participez, voilà, il y a le dynamisme, il y a l'action, il y a la parole, il y a la tête, il y a l'émotion. Enfin bref, vous êtes dans un certain type d'émotion, vous êtes dans une émotionnalité. Et votre corps a besoin de réguler cette émotionnalité tout le temps dans la journée. Et plus vous êtes en émotionnalité, pas en émotion, hein. En émotionnalité, c'est-à-dire en sensiblerie, ah oui, ah oh, d'accord, voilà. Dès que vous êtes là-dedans, votre corps va vous rééquilibrer encore plus souvent, d'accord ? Donc, plus vous montez en émotion, plus vous montez en raisonnement, vraiment d'être dans le mental, ou vous êtes dans l'action, régulièrement, votre corps va faire... Voilà. Mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Et d'ailleurs, si je vous le dis, vous ne vous en rendrez pas compte non plus. En revanche, vous allez le voir chez les autres. Les autres sont tout le temps en train de faire ça. Ouais, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que ça peut être une bonne idée. Par exemple, où il y a des gens qui arrivent, qui disent « ça va ? » ?»« Ah, ouais, ça va, ouais, putain, il y avait des embouteillages. » Voilà, c'est une expiration du soulagement. Cette expiration du soulagement, on la fait spontanément entre 20 et 25 fois par jour. Et ça peut être plus pour des gens qui sont vraiment émotionnels. Mais cette expiration du soulagement, c'est une régulation de l'énergie et ça vous remet dans la paix, ça vous remet dans la tranquillité. Et ça, on le voit tout le temps. Vous êtes sur le point de partir, vous êtes là, vous cherchez vos clés, vous dites « putain, on sait que j'ai posé mes clés ». À un moment donné, vous allez vous arrêter, vous allez dire « bon, ok, la paix ». Parce que dans la paix, vous avez une meilleure organisation de vos idées, vous avez un cerveau plus clair, vous avez aussi un cerveau plus efficace qui va réfléchir mieux. Dans l'hyperactivité, dans l'hyperémotionnalité, vous ne l'avez pas. Donc dans la paix, ok, bon, je suis rentré tout à l'heure, je n'aurais pas foutu ça dans le frigo. Hop, j'ai foutu mes clés dans le frigo, n'importe quoi. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on retrouve ses affaires, c'est d'abord dans la paix. Et puis surtout, si on est avec deux personnes qui commencent à s'embrouiller, la première chose qu'on va faire, c'est on souffle tranquille, ok, tout va bien. C'est-à-dire qu'on va amener les autres aussi à respirer. On ne sait pas pourquoi on le fait, mais on sait que naturellement, ça va nous apporter quelque chose qui va être extrêmement bénéfique et donc qui va pouvoir permettre à ces zig de discuter plutôt que de s'énerver. La respiration du soulagement, c'est une expérience incroyable. C'est le Graal. Pour moi, c'est le Graal. Je pense qu'il n'y a rien de mieux à enseigner dans sa vie que l'expiration du soulagement. Et en fait, ça s'enseigne en Inde, ça s'enseigne très facilement puisqu'en fait, l'Inde, c'est vraiment l'endroit où la spiritualité va passer par cette sensation de paix. Et donc, du coup, ils travaillent ça depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé ou que quiconque a inventé. Je ne suis même pas sûr que ce soit eux qui l'ont inventé. C'est juste qu'à un moment donné, quelqu'un s'est dit... Elle est pas mal cette expiration, c'est bien quand je fais ça. Et qui a commencé à le faire et puis qui a dit, oh, tu sais, moi je fais ça. Et voilà, et en fait, aujourd'hui, on a mis de la conscience sur quelque chose qu'on fait tout le temps comme ça. Donc cet exercice d'expiration du soulagement, c'est vraiment un exercice qui va vous permettre de vous poser dans la paix. Et pour les plus actifs d'entre vous, pour ceux qui ont justement du mal à s'arrêter, cette expiration du soulagement va vous apporter énormément de choses. Notamment, ça aide à s'endormir. Si vous faites ça le soir, donc vous le faites allongé, la plupart du temps, on ne fait pas cet exercice allongé, mais quand il est l'heure de dormir, vous prenez plusieurs fois des longues expirations de soulagement. Et vous allez voir que, voilà, je bâille, le sommeil vous tombe dessus et vous pouvez vous endormir tranquillement. Donc, expiration du soulagement, ça marche tout le temps et vraiment, je vous la conseille. Mais après, ça marche aussi pour se recharger. C'est-à-dire que lorsqu'on on a une journée difficile et qu'en fait, on est crevé, qu'on doit réembrayer sur autre chose, eh bien, on se pose. Et on descend dans cette paix. Je dis on descend parce que quand on expire, on a le sentiment que toute l'énergie, elle descend et en fait qu'elle va dans le bassin. Okay? Le bassin, c'est notre zone d'énergie vitale. Et donc, cette énergie vitale, comme elle est sollicitée par cette respiration, elle nous donne du jus. Elle nous donne de la pêche. C'est comme si vous vous êtes branché comme un téléphone qui est branché sur le câble pour être rechargé. C'est exactement la même chose. Donc, vous allez sentir que c'est comme si vous partiez un petit peu dans le sommeil. Et vous vous sentez un peu lourd et un peu endormi comme ça. Donc parfois ça fait peur parce que les gens se disent, bah non, c'est pas comme ça que je vais me redonner de la vitalité. Mais en réalité, si votre corps se met en stand-by et pendant quelques minutes, il recharge les batteries. Et si vous avez 5 minutes, 5 minutes après, vous vous levez et vous allez voir que vos batteries sont rechargées de façon juste étonnante. OK? Donc, un, la respiration. OK? La respiration. Alors, c'est marrant parce que tu dis ça, Patrice, tu parles du yoga, mais justement, cette respiration n'est pas du tout une respiration du yoga. Et je déconseille même aux gens de faire l'exercice de l'expiration du yoga, c'est qui n'est pas du tout la même expiration. Donc, effectivement, si vous voulez faire du yoga, vous pouvez. Mais si vous voulez aussi avoir l'expiration dont je parle, ce n'est pas celle-là. Donc, cette expiration est une expiration du Graal. Servez-vous-en, apprenez-la à vos enfants. Regardez comment les autres rééquilibrent leur énergie quand ils sont dans des moments de tension, de stress ou quand ils ont besoin de se poser et vous allez comprendre que c'est le truc le plus naturel qui soit. Personne n'invente rien, mais par contre, quand vous l'avez en conscience, ça change tout. OK, les amis? Donc, un, c'est déjà ça. La deuxième chose, c'est que vous allez définir une règle. Alors, moi, c'est pas tellement mon truc. Les règles, c'est pas tellement mon truc, les protocoles. Mais quand j'ai rencontré celle-là, j'ai vu tout de suite quelque chose d'absolu dans l'extraordinaire puissance qu'elle nous apporte. C'est vraiment incroyable. Cette règle, elle est simple. C'est, écoutez bien, je vais définir ce qui pour moi est logique, ce qui pour moi est tolérable, et ce qui pour moi est non négociable. La première fois que je me suis retrouvé en face de cette règle, on me l'a proposée dans le cadre du travail, et notamment de mes associations, parce que j'en ai eu des douloureuses. Et à un moment donné, c'était compliqué pour moi de me dire que il y avait une autre association possible avec quelqu'un d'autre. Je suis tombé sur des gens qui ont beaucoup abusé. Je suis tombé sur des gens qui ont finalement, ouais, c'est ça, beaucoup abusé, quoi. Voilà. Et en fait, ils ont essayé de voler des choses qui sont le business, qui sont l'argent, qui sont l'énergie, qui sont les clients. Et en fait, j'en ai beaucoup souffert. Donc, je m'en veux qu'à moi-même, hein, c'est moi qui suis allé chercher mes associés, même si mes associés étaient des escrocs, je suis allé les chercher moi-même. Okay? Je ne vais pas leur en vouloir à eux. Si j'ai quelqu'un à blâmer, c'est moi, parce que bah, voilà, j'ai aussi une intuition, j'ai aussi du ressenti, et je crois que dès le départ, j'avais senti que c'était des associations un peu foireuses, mais voilà, mon grand enthousiasme a voulu prolonger l'expérience, et je me suis rendu compte que petit à petit que ces gens n'avaient de talent que celui de vouloir vous voler ce qui vous appartient, y compris votre énergie. Bon, ok, pourquoi pas. Sauf que ça tape fort, ok. Ça tape fort parce que ça a détruit beaucoup des espoirs que j'avais aussi dans ma relation avec les autres. Et donc, j'étais dans un moment de très, très grande vulnérabilité. Et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne détermines pas ce que tu trouves logique dans la relation, ce que tu trouves tolérable dans la relation, c'est-à-dire négociable, mais par contre, ce que tu trouves genre rédhibitoire, non négociable. Et je me suis dit, tiens, ça fait partie des choses qui pourraient effectivement commencer à orienter ma vie comme qu'est-ce que je veux vraiment ? Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ça. Et je vous invite à faire cet exercice. Donc, moi, j'ai commencé à y réfléchir dans le domaine du travail et dans le domaine notamment de mes associations. Et je me suis rendu compte que, en fait, je savais très bien ce qui était logique dans une association. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de réfléchir des heures pour me dire, dans une association, en fait, on travaille l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours le même qui travaille et l'autre qui ne fout rien. Dans une association, ce qui est logique, c'est qu'on discute et qu'il n'y en ait pas un qui débarque dans le bureau en disant « je veux que tu me rendes des comptes » alors que lui, il n'a rien foutu depuis des mois. Enfin, il y a des choses qui me disaient, mais en fait, les trucs qui me paraissaient aberrants, c'était aberrant parce que c'était aberrant en référence à une logique que j'avais. Et je me disais, mais en fait, c'est logique qu'on travaille ensemble, c'est logique qu'on fournisse le même effort, c'est logique qu'on s'entraide, c'est logique que parfois ce soit juste à travers une discussion qu'on s'entraide, qu'on s'apporte quelque chose. C'est logique aussi qu'on se respecte. C'est logique aussi qu'on respecte la vie de l'autre. C'est logique, enfin, ça me paraissait logique. Et je me disais, mais putain, mais en fait, je le sais, je sais, en fait, j'aurais pu m'en rendre compte puisque je sais, en fait, ce qui est OK. Je sais ce qui est OK. Et j'ai commencé à prendre un stylo. Je vous dis, il n'y a rien de plus puissant qu'un stylo et un papier. J'ai commencé à prendre un stylo et j'ai dit, dans une association, ce qui me paraît logique, c'est ça. Et j'ai commencé à tracer. Et j'ai écrit. Et j'ai rempli, je ne sais pas, peut-être deux feuilles, trois feuilles, de tout ce qui me paraissait vraiment logique dans la façon de travailler à deux dans une association. Après, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui est tolérable, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut à la limite encore être un peu négocié. Qu'est-ce qui est tolérable ? Et ce qui est tolérable, c'est que, par exemple, cette personne, à un moment donné, s'éclipse parce qu'il y a quelque chose qui est important dans sa vie, avec un enjeu qui est un enjeu puissant, qui est la famille, les enfants, la santé ou je ne sais pas quoi, les parents. Et donc, du coup, c'est négociable. Ce qui est négociable, c'est que pendant un temps, effectivement, je suis seul à travailler parce que l'autre travaille sur un enjeu qui est plus important dans sa vie personnelle et il faut qu'il y mette de l'énergie et le respect, que je trouve logique dans une relation d'association, le respect va faire que je vais le laisser faire ça. Et que pendant ce temps-là, je lui dis, ne t'inquiète pas, je veille et tu reviendras quand tu pourras. Et c'est aussi ce même respect qui fera que cette personne acceptera aussi que moi, je puisse avoir des enjeux aussi par ailleurs qui me prennent du temps et qui me demandent d'être présent ailleurs auprès de mes enfants, de ma famille ou peu importe. Donc ça, c'est négociable. Okay, c'est pas, on sort de la logique de chacun bosse et en fait, on fait l'équivalent du travail en termes de charge, en termes de responsabilité, etc. Parfois, il y a des aléas de la vie qui font que bah, y en a un qui ne peut pas être là. Mais c'est tolérable, c'est OK, en fait, c'est négociable. Après, qu'est-ce qui est non négociable ? Et en fait, j'ai regardé que dans cette association, la dernière, il y avait énormément de choses qui étaient non négociables, mais que j'ai accepté quand même parce que je ne savais pas que c'était non négociable. Je savais que je ne vivais pas bien cette situation, je savais que je trouvais ça injuste, je trouvais même qu'en dehors de l'injustice que ça portait, je trouvais même qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient carrément insultantes, et que je voyais derrière les intentions de cette personne des trucs qui étaient tellement égoïstes, qui ne rimaient à rien dans cette association. Du coup, je me suis dit, ça, en fait, j'aurais jamais dû l'accepter. J'aurais jamais dû l'accepter. Ça, c'est non négociable. Et non négociable, ça veut dire qu'à ce moment-là, j'aurais dû dire non. En fait, tu sais quoi ? Ça, c'est pas OK pour moi. Et comme c'était flou dans ma tête et que les frontières étaient pas bien précises, eh bien, cette personne, elle passait par-dessus les frontières. Elle revenait dans mon territoire. C'était comme si j'avais laissé la porte de chez moi ouverte et que je m'étonnais qu'il y avait 15 personnes dans mon salon et 8 dans la cuisine en train de vider mon réfrigérateur. En fait, quand on laisse la porte ouverte, c'est normal que les gens rentrent. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir dire non. Il faut pouvoir dire stop, tu t'arrêtes là tout de suite. Non. OK? Ça marche pas avec moi. En fait, ça marche pas avec moi. Dans une association, je pense que cette attitude-là est non tolérable. Je la tolère pas. Donc, on passe par un autre bien. Si tu veux discuter, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça, on se le fait pas. Et je pense que j'aurais pu parfaitement le dire à partir du moment où j'aurais compris que c'était la frontière, que c'était la limite. Et quand la limite, elle est claire dans notre tête, en fait, c'est pas un problème de la dire aux autres. C'est quand elle n'est pas claire. Parce que quand elle n'est pas claire, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils empiètent, ils empiètent, ils empiètent, ils empiètent, ils empiètent. Et à un moment donné, en fait, on est là et en fait, on n'a pas d'autre solution que de taper du poing sur la table et dire stop, ça suffit. Mais c'est déjà trop tard. Mais quand on connaît la frontière et qu'on voit quelqu'un qui la dépasse, on dit hop, 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 attention là, tu es en train de dépasser une frontière, tu es en train de dépasser une limite, pourquoi tu fais ça? Ça rime à rien. Et là, je me suis dit, c'est là aussi où je sais prendre ma responsabilité, où je dis voilà, s'il y a une personne à blâmer, c'est moi en fait, parce que c'est moi qui n'ai pas su mettre mes limites, c'est moi qui n'ai pas su expliquer, c'est moi qui n'ai pas su vivre clairement cette règle qui est qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui est tolérable et qu'est-ce qui est non négociable. Donc, je vous invite aussi à la poser, je vous invite aussi à la comprendre, je vous invite aussi à la réfléchir. Et vous allez voir que quand on est sur le logique, ça coule de source. Et c'est une merveilleuse chose que ça coule de source. Ça veut dire qu'en fait, nous avons déjà en nous absolument tous les principes, tous les jalons. Nous avons tous les jalons qui nous permettent de vivre une vie heureuse. Parce que nous savons exactement ce qui nous convient. Dans la relation amoureuse, qu'est-ce qui est logique dans la relation amoureuse? Un jour, alors moi, sur la relation amoureuse, j'ai eu, je pense, une opportunité absolument géniale. C'est que quelques années auparavant, j'étais à Montpellier et je reçois un coup de téléphone d'une amie qui me dit « Est-ce que je peux passer ?» En pleurs, je lui dis « Oui, bien sûr, vas-y, viens. » Et en fait, elle arrive et en fait, elle se pose. Elle était mal et tout. Enfin, elle était comme ça, elle avait une capuche, des lunettes. Elle dit « Ça va pas », elle pleurait. Et en fait, je lui amène un verre d'eau, je lui parle calmement et j'attends qu'elle se calme un peu. Et en fait, elle enlève ses lunettes et je vois une marque, mais un truc, vraiment un bleu, elle s'est fait exploser la tête. Et je lui dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Elle me dit, mais non, mais machin. Je lui dis, mais explique-moi, il s'est passé quoi? J'étais affolé parce que, enfin, c'était horrible pour moi de voir ça, c'était extrêmement violent. Et je lui dis, mais dis-moi ce qui s'est passé. Tu vois. Non, mais en fait... Il m'a tapé, etc. Quoi? Il a quoi? Elle me dit, il m'a tapé. Et là où, en fait, elle m'a fait un énorme cadeau, c'est qu'elle m'a dit, il m'aime, mais il m'aime d'un amour spécial. Et moi, j'ai eu comme une sorte de choc électrique en entendant cette phrase, mais un choc électrique absolument terrible. Et je me suis assis en face d'elle et je lui ai expliqué. Alors, j'étais pas encore dans les trucs de développement personnel. J'étais pas là. J'étais dans une espèce de, juste, c'était, pour moi, c'est du bon sens. Quand on tape quelqu'un, c'est pas de l'amour, point barre. Enfin, il n'y a pas du mauvais amour. Il n'y a pas du mauvais amour. Ça n'existe pas. Et donc, je lui ai expliqué ça. J'ai dit, mais tu sais, le mauvais amour, ça n'existe pas. Soit c'est l'amour, soit c'est pas de l'amour. Mais l'amour ne peut pas être défini avec un principe qui dit que, bon, il y a aussi de l'amour où on se tape sur la gueule. Non, en fait. Un coup, c'est un coup, c'est une violence. C'est quelque chose qui t'est asséné, tu vois. Et c'est pas l'amour qui assène les coups. C'est la haine qui assène les coups. Donc, c'est tout l'inverse. Tu peux pas dire c'est de l'amour-haine, ça n'existe pas. C'est pas de l'amour, c'est de la haine. Et donc, j'avais vécu cette séquence-là quelques années auparavant. Et donc, ça m'a permis de savoir assez vite définir ce qui est logique, non tolérable, non négociable, et ce qui est non négociable. Parce que j'avais, avec cette situation, j'avais exprimé ce que je savais au fond de moi qui représentait l'amour. Et donc, du coup, j'ai commencé assez rapidement à définir ça. Cette règle, elle n'a pas toujours plu parce que je m'y suis tenu. C'est-à-dire que j'ai eu des relations dans ma vie. J'ai eu deux enfants avec deux femmes différentes. Et en fait, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais pas du tout dans cette règle-là. J'étais dans une espèce d'incompréhension de comment ça fonctionnait. J'étais moi-même dans une incompréhension de moi. Enfin, c'est tout ça. C'était avant que je commence à travailler sur en développement personnel. Et je me suis rendu compte que après ma première séparation, qu'il fallait que je fasse un travail parce que j'étais au carrefour de tous les emmerdements de ma vie. Et en fait, si je regardais ce que je vivais, enfin, la seule personne à qui je pouvais dire, mec, c'est pas terrible. C'était à moi. Donc, j'ai commencé à travailler. Et en fait, j'ai eu effectivement beaucoup de relations dans ma vie. Mais j'ai eu beaucoup de relations parce que je me suis tenu à ces règles-là. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui est logique dans une relation d'amour? Et lorsque j'étais dans une relation où ce n'était pas logique, alors c'était pas OK. Ça veut, alors, il y en a plein qui me disent, oui, mais enfin, ça va, on peut aussi, ça veut dire que l'autre doit être irréprochable. Absolument pas. Absolument pas. L'autre n'a pas à être irréprochable. L'autre n'a pas à être comme ci, à être comme ça. C'est moi qui décide de vivre ce que j'ai envie de vivre, en fait. Après, les gens, ils sont comme ils veulent. Il y a pas, c'est OK. Je ne les sanctionne pas parce qu'ils sont pas comme ci ou ils sont pas comme ça. C'est juste que moi, j'ai envie de vivre quelque chose. Par exemple, on pourrait très bien le comprendre si on voyageait à pied, à deux, depuis 3 semaines, et qu'il y en a un qui dit bah, putain, moi, tu sais quoi, j'ai envie, là, tout de suite, j'ai envie d'aller visiter Barcelone. Ah ouais, tu sais quoi, parce que moi, j'ai vraiment envie d'aller visiter Rome. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Bah, en fait, on se serre la main et c'est ok, va visiter Rome, mais amuse-toi et régale-toi, et toi aussi à Barcelone, et puis peut-être on se retrouvera plus tard. Mais pour moi, c'est aussi simple que cette explication-là, et j'ai pas envie que ce soit une explication plus compliquée. En fait, c'est une explication simple parce que l'amour est simple. L'amour, c'est prendre soin. L'amour, c'est encourager, c'est écouter. L'amour, c'est cajoler. L'amour, c'est rire, c'est être complice. L'amour, c'est ça qui est logique pour moi dans la relation d'amour. Et comme je le vois, je vois que ce n'est pas logique pour des tas de gens parce que eux, ils préfèrent que l'amour ce soit des compromis, que l'amour ce soit des promesses, que l'amour ce soit... Et moi, je ne sais pas faire ça, je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc, je ne fais pas de promesses, mais je ne fais pas de promesses à mes enfants, donc je ne fais pas de promesses à mon couple. Enfin, voilà. Donc, je dis, bah ouais, on va essayer de mettre les choses en place comme ça, mais je suis pas garant du résultat. Enfin, voilà, quoi, il peut se passer 10 000 trucs. Et donc voilà quoi. Donc cette logique, elle s'est installée dans ma vie. Et quand je vois d'autres personnes qui ont besoin de vivre autre chose, il y a des gens, ils ont besoin de batailler, ils ont besoin de non, c'est ok. Si tu veux, il y a des gens qui ont besoin de taper. Voilà, ils ont besoin de taper. Alors d'autres qui ont besoin de taper fort. Mais des gens qui arrête, attends, non. Si tu veux me toucher, embrasse-moi, mais me tape pas quoi. C'est pas ok pour moi en fait. C'est juste pas ok. J'ai pas envie de vivre avec quelqu'un qui à chaque fois qu'elle va avoir une émotion va me mettre un coup. C'est pas possible quoi. Et donc du coup voilà, j'ai installé sur cette liste de l'amour qu'est-ce qui est logique. Et en fait j'ai vu que j'avais déjà plein de bon sens en fait. Exactement comme dans le job, c'est plein de bon sens en fait. C'est ça et ça et ça et ça. Qu'est-ce qui est négociable? Et ben en fait on est issu de d'éducation différente, on est issu de milieux différents, on a chacun notre point de vue sur le monde, sur la vie, on a chacun notre point de vue sur plein de choses. Ce qui est négociable, c'est comment cette personne, elle va arriver aussi avec ses habitudes. Il y a des gens qui sont bordéliques, il y a des gens qui sont extrêmement organisés. Moi, je fais plutôt partie des gens qui sont organisés, je suis plutôt partie des gens qui sont même plutôt, je veux dire, voilà, plutôt carré, je suis vierge, apparemment, ça y fait beaucoup. Donc voilà, je nettoie, je range, j'aime que les choses soient clean. Et évidemment, il y a des gens qui arrivent avec le bordel. Il y a des gens qui arrivent avec le chaos. Mais moi, c'est OK pour moi, je m'en fous. Je m'en fous, en fait. L'autre arrive avec ce qu'elle est. Donc ça, c'est tout à fait négociable, il n'y a pas de problème. Et en fait, parce que, moi, je suis respecté dans ma capacité à ranger les choses. C'est-à-dire, si le bordel, c'est aussi son bordel, ben, je range, moi, parce que moi, ça me dérange pas. Mais si on m'empêche à moi d'être clean, parce que c'est comme ça doit être fait, que c'est le bordel, ça va, ça prend pas la tête et tout. Là, pour moi, c'est pas OK, en fait. Je te respecte dans ta capacité à être bordélique. Respecte-moi dans ma capacité à être clean, c'est tout. Mais ça peut très bien se passer. Il y a pas de problème. Moi, j'ai rien à reprocher à des gens qui foutent leurs affaires par terre. Je les range, c'est tout. Je m'en fous, quoi. Donc voilà, et parce que j'aime bien aussi être dans un univers, enfin j'ai un cerveau qui est hyper actif, donc j'aime bien être dans un univers qui est plutôt sobre, plutôt même, je veux dire, plutôt zen, quoi, parce que du coup ça m'évite des toxiques, donc voilà, c'est très bien. Mais c'est moi et c'est ma logique. Et tout ça, c'est tout à fait tolérable. Et après, il y a des choses qui sont non négociables. Violence non négociable, coup non négociable, insulte non négociable, jalousie non négociable. C'est pas négociable, en fait. C'est pas négociable. Pourquoi il y a de la jalousie? Je suis un grand garçon. Si je suis avec toi, c'est que je t'aime et que j'ai envie d'être avec toi. Tu vois, si tu es jalouse, à quoi ça sert? Tu vois, tu perds du temps. Tu es en train d'insinuer quoi de moi? Qu'est-ce que tu es en train de penser de moi pour te mettre dans cet état-là? Je suis qui à tes yeux, quoi? Donc ça, c'est le genre de choses qui est très, très compliqué pour moi. Mais en fait, on se rend compte que les relations, petit à petit, en fait, elles sont... Alors, je parlais vidéo précédente, je parlais des mauvais castings. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on fait des mauvais castings. Mais quand on sait ce qu'on veut, en fait, d'un seul coup, on se retrouve avec des gens dans nos vies, que ce soit nos amis, que ce soit nos conjoints ou nos conjointes, qui sont hyper respectueux, qui sont des gens qui ont envie de vivre aussi les mêmes choses que nous, par le fruit du hasard. Mais ce n'est pas par le fruit du hasard, c'est parce que c'est clair pour nous. Quand c'est clair pour nous, les gens, ils le voient, ils le savent. Et quand ce n'est pas clair pour nous, bah, en fait, ça fout le bordel. Mais quand c'est clair pour nous, c'est OK. Donc, rappelez-vous de ça, ce qui est logique, ce qui est tolérable et ce qui est non négociable. Il n'y a pas de mauvaise humeur, tu as tout à fait raison. Que j'aime cette expiration du soulagement, ça fonctionne trop bien sur moi. Ça fonctionne sur tout le monde, Fanny. Mais quand tu trouves ça et que tu te l'appropries comme tu viens de le trouver là, oh, putain, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Et tu sais qu'il y a des gens qui commencent à travailler la respiration et qui, pendant une période parfois de quelques semaines, n'arrivent plus à en sortir. Et ça, à chaque fois que quelqu'un m'a appelé en disant « Putain, c'est horrible, en fait, je ne fais que la respiration, je trouve tous les moments où je peux être dans la paix, je me mets dans la paix. » Puis parfois, je rentre chez moi, et puis je me rappelle, il y a quelques temps, il y a une personne qui m'avait appelé en me disant « Je rentre chez moi après le boulot, il est 18h, je me fous dans la paix, quand j'ouvre les yeux, il est 23h, quoi. » C'est OK, c'est pas dangereux en fait. C'est pas dangereux, c'est juste que dans ta vie, tu avais besoin de ce sas, qui est un sas de décompression totale. Et en fait, le mouvement de la vie est un mouvement. Et donc, le mouvement de la vie va t'entraîner à un moment donné. Donc, même si tu te mets dans cette paix, et moi j'y reste parfois longtemps, dernièrement, là, je suis parti en retraite pendant 3-4 jours là, et en fait, je me mettais dans la paix, ça pouvait durer une demi-heure, une heure et demie, peu importe en fait. Parce que ma vie avait besoin de ça à ce moment-là. Et en fait, je suis dans un espèce de néant absolu où je suis en contact avec l'intégralité du tout, ça s'appelle le neutral, et je me pose là-dedans. Et en fait, à partir de là, j'ai le sentiment que toutes mes idées se recadrent, que toutes les choses redeviennent claires. J'ai l'impression que la source de mes énergies, de ma créativité, tout revient. Tout s'ouvre, tout s'est... Et en fait, je récupère en énergie d'une façon fois mille. J'ai des nouvelles idées, j'ai des nouvelles... Voilà. Et donc, du coup, je ne peux plus regarder l'avenir de la même façon parce que j'ai réorganisé les choses, parce que j'ai pensé aussi à dire « Tiens, il faudrait que je fasse ça et ça », parce que je redéfinis qu'est-ce qui me ferait plaisir de vivre, qu'est-ce qui me ferait plaisir de ressentir. Et à partir de la paix, c'est juste ouf, quoi. J'ai du mal à saisir ce que tu veux dire par logique. Alors, ce que je veux dire par logique, c'est que quel que soit ton domaine de vie, tu sais, et nous savons tous, ce qui est logique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est OK à vivre. Par exemple, si je te parle d'amis, des amis, Christine, qu'est-ce qui te paraît logique de vivre avec des amis? Je ne te parle pas des tiens, juste toi, Christine. Okay, qu'est-ce qui te paraît logique de vivre avec des amis? Je ne te parle pas de dire « je veux des amis comme ci et comme ça ». Non, non, c'est « qu'est-ce qui te paraît logique ?» Se marrer, ça paraît logique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Avoir des activités communes, genre jouer à des jeux, se balader, faire de la randonnée, je sais pas, aller faire du bateau, enfin, faire des trucs ensemble. Organiser des dîners, aller dîner chez les uns et chez les autres. Ça, c'est bien aussi. Ça paraît logique, en fait. C'est ce genre de choses qui paraît logique dans une relation amicale. Et puis, ça peut être aussi avoir confiance, c'est-à-dire se confier à l'autre sans peur que notre secret ou notre confidences soient balancées à tout bout de champ. Donc, j'ai besoin d'avoir confiance aussi. Donc, ça, c'est important aussi, la confiance dans la relation d'amitié. Il y a aussi ce qu'on peut appeler aussi la fraternité. C'est-à-dire, c'est une relation qui est une relation particulière parce qu'on a, dans cette relation, on n'a pas forcément besoin que les choses soient dites. Il y a quelque chose qui est installé. La fraternité, c'est ça. C'est quelque chose qui est installé. Et c'est quelque chose qui crée le lien. Tu vois? Et voilà. Et c'est, en fait, dans une relation d'amitié, la relation d'amitié me paraît construite intelligemment à partir de ces éléments-là. Ok, logique qui a du sens pour toi. Pas forcément, hein, Marie. C'est pas forcément qui a du sens. Du sens, c'est ce qui apparaît normal quand je pense à la relation d'amitié. C'est normal, en fait. Voilà. C'est logique. C'est normal, en fait. La relation d'amitié, elle se construit avec ça. Si je te dis, par exemple, la relation d'amitié, c'est chaque fois que tu vois tes amis, ils te giflent. Est-ce que ça te paraît logique ou pas logique? Ben non, ça paraît pas logique. Donc ça, on le mettra pas dedans. En revanche, à chaque fois qu'ils te voient, ils te huguent, ils te font aussi des compliments, par exemple sur ta tenue. En fait, quand on est des amis, en fait, on se casse pas, on se brutalise pas. C'est quoi cette coupe de cheveux de merde? Qu'est-ce que t'as fait là? C'est quoi cette jupe là? Ça ressemble à rien, on dirait un sac à patates. Non, on se parle pas comme ça dans la relation d'amitié. Dans la relation d'amitié, on se dit ah ouais putain c'est chouette ce que tu fais, ah putain c'est génial, bravo pour ta promotion et tout. Voilà quoi. Et il y a une constante qu'on dit dans les affaires. On dit dans les affaires, tu sais que tu es bien entouré à partir du moment où quand tu expliques ton projet, les gens qui t'écoutent te disent « Waouh, putain, c'est génial, bravo, putain, c'est super. Tiens, d'ailleurs, peut-être que tu devrais… peut-être que d'ailleurs, ce serait marrant de rajouter ça et de rajouter ça. » C'est-à-dire, ils te félicitent, ils participent et ils t'encouragent. Ils proposent un coup de main. Si tu as envie de n'importe quoi, si tu as besoin de n'importe quoi sur ton projet, compte sur moi. En fait, on sait qu'on est entouré des gens de la réussite à partir du moment où, quand on expose son projet, c'est ce type de réaction qu'on a. On sait que notre entreprise est en danger à partir du moment où on est confronté à des gens qui nous disent « t'es sûr ?» Ouais, mais pourquoi ? Parce qu'ils intègrent un doute. Et en fait, ils intègrent un doute et ce doute va tellement être répété déjà par eux et ensuite par nous dans notre tête parce qu'on va se dire « merde, cette personne qui est quand même mon pote, elle n'y croit pas, etc. » Après, il peut y avoir des idées qui sont des idées pourries, mais en fait, c'est « ouais, pourquoi pas et tout, mais est-ce que tu crois que ça va marcher ?» Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça et on voit des éléments ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de construire ensemble et on peut se rendre ensemble en construisant qu'en réalité, ça n'a pas d'avenir. Mais c'est pas grave, on était ensemble pour voilà et on n'était pas là pour casser. Moi, je me souviens d'une soirée où en fait il y a une jeune femme qui a dit à tout le monde en fait voilà j'arrête le job pour être naturopathe et il y a un mec qui a dit quoi putain mais c'est n'importe quoi et en fait j'ai regardé j'ai dit mais t'es qui toi pour dire ça t'es qui toi enfin c'est ouf d'avoir cette assurance pour briser le rêve de quelqu'un quoi et en fait je dis allez, laisse tomber je me suis levé je me suis barré je me suis dit je suis pas au bon endroit c'est pas un endroit où j'ai envie d'avoir des amis parce que ces gens-là sont pas des amis. Et voilà, c'est faut être clair avec soi-même. Et donc, c'est ça le mot logique, ma chère Christine. Après, évidemment, vous comprenez ce qui est tolérable, j'imagine, et vous comprenez ce qui est non négociable. Ce qui est non négociable, c'est très important puisque c'est là où vous allez poser votre frontière. Et c'est parce que vous allez avoir conscience de votre frontière que toute personne qui va la franchir, eh ben, vous allez la voir et vous allez lui dire stop. Et si cette personne, elle continue de la franchir, eh ben, ciao! C'est OK, on n'est pas là pour changer les gens. On n'est pas là pour les éduquer, on n'est pas là pour les transformer, on n'est pas là pour les dompter. On est là pour vivre des belles expériences avec eux. Il y a des gens qui ne veulent pas des belles expériences. Il y a des gens qui veulent des expériences de confrontation, de je te fous des tartes dans la gueule et on appelle ça de l'amour. Ces gens-là, OK, bah, qui se mettent des tartes entre eux. Mais si vous avez envie d'autre chose que de ça, eh ben, vivez autre chose que de ça. OK? Est-ce que je peux aussi me servir de cette règle avec ma propre famille? Exactement, tout à fait. Tout à fait. On peut se servir de cette règle avec sa propre famille. Sa propre famille, c'est justement l'endroit, Anne, où justement on est acculé, et au bout d'un moment, on tape du poing sur la table. La famille, c'est l'endroit où justement on attend le plus longtemps avant de craquer. Et c'est souvent ce craquage qui fait que, y en a un qui disparaît et on le voit plus. Moi, j'ai craqué dans ma famille, je me suis cassé, on m'a plus vu, quoi. Mais ça résout pas le problème, parce que déjà, la lourdeur de cette situation, tu la portes, quoi. Et tu peux la porter toute ta vie. Et quand il n'y a pas de résolution dans la famille, quand il n'y a pas d'explication, ouais, de résolution, bah, en fait, c'est quelque chose qui va être lourd sur tes épaules tout le temps. Et on n'a pas envie de ça, on n'a pas envie. Et la famille, c'est pas l'école du pardon. La famille, c'est l'école de l'acceptation. C'est l'école qui dit, voilà, avant que ce soit papa et maman, bah, c'est Ginette et Paul. Voilà. Avant que ce soit papa et maman, bah, c'est Véronique et David. Voilà. Véronique et David, ils sont comme ça. Voilà. C'est comme ça. C'est mes parents, mais ce sont des gens qui ont aussi leur façon de voir les choses. Et donc ça, c'est la pureté de l'acceptation. Et donc, du coup, on fait ça, on dit, dans la famille, c'est ça qui est OK. Après, il faut savoir suivre sa propre règle. C'est-à-dire que ce qui est logique dans la famille, c'est l'entraide. Mais à partir de ce moment-là, il va falloir que toi, tu entraides, tu aides aussi. Ce qui est logique dans la famille, c'est la reconnaissance et l'acceptation. Ça veut dire que toi, ton premier job, c'est d'accepter les autres, tu vois. Même le tonton casse-couille ou la tata qui est mauvaise langue. La tata langue de vipère, c'est une tata langue de vipère, on le sait. Elle est comme ça, mais c'est OK, on peut l'aimer aussi comme ça. Et c'est vraiment l'école de l'acceptation. La famille, j'ai l'impression vraiment même que dans l'incarnation, ça sert à ça, quoi. C'est que tant qu'on n'a pas réglé cette problématique d'acceptation avec la famille, bon, en fait, ça va être compliqué avec les autres, quoi. Mais plus on l'accepte pour soi-même, plus on joue le jeu de cette propre règle, et plus c'est OK. Et puis, on voit aussi que pour certaines personnes, il y a des frontières qui sont peut-être même pas définies pour eux, mais il y a des frontières qu'il faudra pas dépasser. Ce sont leurs frontières intolérables, qui sont pas claires, qui sont floues dans leur tête, mais que nous, on voit. Et donc, du coup, on les dépassera pas, quoi. Mais pas celui qui t'insulte ou te tape dessus. Ben oui, clairement. Si cette personne t'insulte, ça veut dire que tu es en face. Si cette personne te tape dessus, ça veut dire que tu es en face. Si tu as envie de vivre ça, bon, bah reste, prends des insultes et prends des coups. Mais si tu n'as pas envie, s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, dans une attitude par exemple, bah, ne fréquente pas cette personne. Mais c'est OK. Moi, il y a une personne dans ma famille que je ne fréquente pas, que je ne fréquentais pas parce qu'il est décédé, mais que je ne fréquentais pas. Je ne fréquentais pas mon oncle, un de mes oncles, parce que je trouve que ça a été un type odieux. Ça a été un type odieux avec ma tante, ça a été un type odieux avec ma mère, odieux avec moi, odieux avec tout le monde, odieux avec ses filles, odieux. C'est un type odieux, en fait. C'est un type qui n'a jamais eu la présence d'esprit d'être sympathique avec qui que ce soit. Bon, ben voilà, c'est tout. Moi, quand on me téléphonait pour me dire « Tiens, il y a une soirée organisée, machin, nanana », non, j'y vais pas. Et en fait, une fois, on m'a téléphoné pour me dire « Ouais, c'est l'anniversaire de cette personne, tu seras là ?» Ben non. Enfin, c'est une personne que j'inviterai pas à mon anniversaire. Pourquoi j'irai au sien? Ça ne m'intéresse pas. Et je sais que c'est difficile pour la famille d'accepter ça, parce que c'est comme si je leur mettais devant les yeux que eux, ils acceptaient, en fait. Mais moi, je m'en fous. Je leur dis non, mais allez-y si vous voulez. Mais c'est tout. C'est juste moi qui n'y vais pas. C'est moi qui n'y vais pas parce que pour moi, ça, c'est non négociable. Et cette attitude, elle est non négociable. Et il a été odieux avec ma grand-mère. Et en fait, à son décès, je lui ai envoyé une pique en lui disant, parce qu'il n'arrêtait pas de dire « Alors, la vieille, quand est-ce que vous allez crever ?» c'était terrible pour moi. Et en fait, il y avait très peu de gens de ma famille qui réagissaient à ça. Tout le monde lui disait qu'il était con, mais en fait, il n'en avait rien à cirer, il rigolait, et puis il continuait de l'insulter. Et donc, du coup, quand elle est décédée, je lui dis « Alors, ça y est, t'es content, ça y est, elle a crevé, elle est crevée maintenant. » Et voilà, quoi. Et en fait, ça a acheté un froid, mais parce que ça montre toute la bêtise de ce type d'humour. Parce que le jour où ça arrive, bah, tu fais moins le malin, quoi. Et en fait, de ce jour-là, j'ai dit, bon, allez, c'est terminé. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc, j'y vais pas. Puis en même temps, je suis une grande personne, hein. Je veux dire, je peux faire autre chose de ma vie. Il n'y a pas de problème. Mais après, si on peut aller voir les autres et tout, il n'y a pas de souci. On ira. Si on fait des bouffes, des week-ends, des machins, des trucs, il n'y a pas de problème. Si les gens sont des gens, s'ils sont adorables et s'ils comprennent qu'en fait, bon, moi, j'ai pas envie de faire, c'est même pas faire un effort particulier. J'ai pas envie de me retrouver kidnappé dans une atmosphère qui est malveillante. Et donc, du coup, j'ai la liberté de pouvoir m'en sortir. Alors, je m'en sors. Il faut être de son côté. Je pense que non. Je vois pas de quoi on parle, mais effectivement, si c'est de cette personne-là, je pense que non. J'ai difficile avec ma famille. Ils sont un glaçon avec moi. Je suis en chemin grâce à toi. Merci, Déborah. En fait, ouais, c'est accepter. Ils sont comme ça. Voilà, c'est acceptation. C'est l'école de l'acceptation, la famille. Et c'est absolument génial pour travailler justement la fin de l'abus pour travailler le début de ce que je considère comme logique, ce que je considère comme tolérable et ce que je considère comme non négociable. OK ? Est-ce que vous avez des questions, les amis ? Je vois que vous en avez. Mais une vraie profonde amitié depuis des années fait qu'on excuse un comportement, on passe au-dessus même si on n'est pas d'accord. Oui, bah c'est ça, c'est ce qui est tolérable. C'est ça qui est tolérable, en fait. En fait, il y a une phrase de, je ne sais plus qui, cette personne qui disait ça, mais qui disait « Un ami, c'est quelqu'un qui te connaît bien et qui t'aime quand même. » Je trouve que cette phrase est très forte. Elle est très forte parce qu'elle dit beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui te connaît bien et qui t'aime quand même. Mais ça, c'est la version tolérable, en fait. Parce qu'effectivement, il y a des amis qu'on a depuis très longtemps et qui sont des gens qui, parfois, ont eu des maladresses. Et effectivement, c'est tolérable, en fait, parce qu'on sait que c'est pas le fond, en fait, c'est pas le fond de la personne. Ils sont pas ça, en fait. Ils sont aussi plein d'autres choses. Mais après, les choses qui se répètent, bon, sont des choses qui montrent que cette personne, elle s'entête dans une attitude qui est une attitude qui va pas forcément être OK avec toi. Et en fait, l'ancienneté ne fait rien, quoi. Voilà, quoi. Moi, je me suis séparé d'un ami qui, de 25 ans, cet ami de 25 ans, en fait, a commencé à être franchement désagréable avec moi, très très bizarre avec ma chérie, enfin voilà quoi, à un moment donné c'est non, bah voilà, c'est négociable un temps parce qu'il peut y avoir des maladresses, mais à un moment donné c'est non négociable. Pourquoi? Parce que simplement c'est pas l'amitié, en fait, c'est pas l'amitié. D'ailleurs, je me rappelle qu'à un moment donné Marie, qui est là aussi, m'avait dit mais est-ce qu'il y a une vraie raison aujourd'hui pour que vous soyez encore amis? Et j'ai trouvé la question assez intéressante, ça, c'est le non négociable. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des raisons non négociables par rapport à cette amitié? Et donc, j'ai dit, tiens, c'est une très bonne question. Et donc, je l'avais au téléphone et je lui ai dit, est-ce que tu peux me répondre à ça? Est-ce qu'il y a... Mais vraiment, je te fais confiance et je suis prêt à remettre de l'énergie là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il y a réellement une raison aujourd'hui pour qu'on soit encore amis? Et en fait, il y a eu un grand silence. J'ai dit, OK, bon, c'est bien ce que je pensais. Et donc, j'ai raccroché, on ne s'est plus jamais reparlé, et c'est parfait, en fait. C'est parfait parce qu'en fait, il a commencé à développer des travers dans notre relation qui étaient extrêmement perverses, et donc, je n'avais pas envie de ça, en fait. Après, moi, je ne considère pas qu'il est ça, je considère qu'il est aussi les 25 années à rigoler avec lui, à vivre des choses extraordinaires. C'est ça, j'ai eu un super ami, voilà. Mais ce super ami a changé en super non-ami, donc, ben voilà, je garde le souvenir de l'ami et l'autre... Il bouge, quoi. Merci, Monique, pour cette question. Et quand c'est ton fils de 13 ans qui a cette attitude violente, c'est plus délicat? Oui, bien sûr, c'est délicat. Les enfants ne sont jamais violents pour zéro raison. C'est une façon d'exprimer quelque chose qu'ils n'arrivent pas à dire avec les mots. Donc, ça veut dire que s'ils l'expriment comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le champ d'expression possible. Et c'est pas parce qu'on leur dit parle-moi si t'as besoin qu'en fait ça va se faire. C'est une question de confiance, de mettre en place un lien qui est un lien de confiance. En fait, il y a beaucoup de générations aujourd'hui qui sont totalement perdues parce que qui sont des préadolescents comme ça, qui sont totalement perdues parce qu'en fait on leur propose d'agir dans un monde d'une façon qui est totalement incohérente pour eux. Mais en fait, on n'a jamais essayé de savoir qu'est-ce qui était cohérent pour eux. Et donc, du coup, on essaye de les mettre dans un schéma qui nous paraît logique, qui nous paraît cohérent, et en fait, qui ne l'est absolument pas pour eux. On a tous des enfants qui peuvent partir en sucette comme ça. Absolument tous. Il n'y a pas d'enfants plus durs que d'autres, en fait. Il y a peut-être des enfants un petit peu plus sensibles et plus fragiles. Moi, j'étais un enfant extrêmement sensible. J'ai fait énormément de conneries. À 13 ans, j'étais hystérique. Je faisais n'importe quoi. Alors après, j'étais aussi drôle et sympathique, mais je faisais aussi beaucoup de conneries. Mais en fait, je faisais aussi beaucoup de conneries parce qu'il n'y avait pas d'écho. Personne n'était là pour entendre ce que j'avais à dire. Et donc, du coup, la meilleure chose à faire, c'était de casser quelque chose parce que c'était le meilleur moyen d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à moi. Donc, je ne dis pas que tu fais bien ou que tu fais mal. Je ne connais pas la situation, je ne connais pas l'enfant. Mais en fait, cet enfant, il a probablement besoin d'un interlocuteur et il ne le trouve pas, quoi. Et effectivement, moi, j'ai cassé des choses dans ma banlieue pendant des années parce que j'avais pas d'interlocuteur. J'ai commencé à m'arrêter quand j'ai rencontré un de mes potes, qui s'appelle Philippe, qui était plus vieux que moi. Il était en couple, il avait déjà une petite fille. Et donc, en fait, ce couple m'invitait à dîner, on discutait. Et donc, j'avais plein de revendications idiotes, mais que j'avais le droit de balancer sur la table. Et en fait, lui, il savait entendre ça, il savait me parler. C'est le premier qui m'a mis un livre, qui a mis Paolo Coelho dans les mains, Les Sept Plumes de l'Aigle aussi. Et en fait, voilà, c'est quelqu'un qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a apporté de la paix, parce que simplement, il était là pour entendre, quoi. Est-ce qu'il entendait vraiment ? J'en sais rien, mais en tout cas, il était là pour entendre. Donc, c'est important aussi de savoir que nos enfants ne veulent que s'exprimer. Soit ils y arrivent avec les mots parce qu'en fait, ils ont un interlocuteur qui leur permet, ou parfois, s'ils ont une structure, un pédopsychiatre ou tout autre chose. Et en fait, du coup, bah, c'est là où ils s'expriment. Parfois, ce sera avec un dessin. Je me rappelle que dans un moment donné, mon fils était comme ça, dans cette grande agressivité. Et en fait, on est allé voir une personne qui lui demandait rien d'autre que de faire des dessins. En fait, il faisait des dessins, et en fait, sauf qu'il avait l'impression que ça servait à rien, sauf que c'était pas le même avant et après la séance. Il était libéré, il y avait quelque chose qui s'était déposé. Donc, c'est intéressant de regarder ça, et puis après, de voir aussi dans notre relation avec nos enfants de quoi on a envie, quoi. Moi, j'ai pas envie que ma relation avec mes enfants, ce soit des bagarres, travail, fais ci, fais ça. Non, non, c'est une relation de confiance, et dans cette relation de confiance, parce qu'elle est belle, bon, bah, le reste suit, quoi. Mais voilà, moi, je dis à mon fils, il est hors de question que je troque la relation géniale qu'on a tous les deux pour des problèmes de devoirs pas faits. Je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Tu veux vraiment qu'on se batte là-dessus? Mais tu ne me trouveras pas, quoi. Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on s'entende magnifiquement. Après, si tu as envie d'avoir des mauvaises notes et d'être un clochard dans ta vie, bah, fais ça, construis-toi comme ça. Et en fait, c'est parce que j'ai confiance en lui, bah, en fait, et ça, il bosse, quoi. Il bosse, il est content de travailler. Et en fait, ensemble, on célèbre ensemble à chaque fois que ça se passe bien. Donc, voilà, quoi. Ce que tu viens de dire fait écho à ce que m'impose mon organisme, mon cerveau, si actif comme le tien, peut se mettre en pause pendant un temps indéfini comme il me redonne la main. Mais en fait, Nathalie, la paix, c'est, je te dis, c'est le Graal, quoi. Donc, allez dans la paix et n'hésitez pas à y aller et à y retourner. Et à un moment donné, le mouvement de la vie va vous entraîner pour de toute façon faire autre chose que ça, mais vous aurez toujours cet exercice avec vous. Moi, aujourd'hui, ce matin, d'ailleurs, je vous le confie, ce matin, j'étais confronté à une espèce de mauvaise nouvelle. Et en fait, j'étais extrêmement calme. Et je me disais, est-ce que je suis calme parce que j'ai tellement travaillé le calme que bah, du coup, je suis calme? Ou est-ce que c'est parce que je pressens qu'en réalité, il n'y a pas de problème derrière ça? Mais quel bonheur ce matin! Mais quel bonheur! Je me disais, mais en fait, je deviens imperturbable, je deviens un mec dans la paix, quoi. Et en fait, ça a l'air comme ça, d'être une espèce de, voilà, de me la raconter. Mais en réalité, ceux qui me connaissent de longtemps me seraient morts de rire en disant, mais c'est vrai que toi, t'en arrives là, c'est juste dingue. Moi-même, j'étais en train de me dire, mais je suis parti de tellement loin, mais de tellement loin, moi, l'hyperactif, TDA, haut potentiel, chiant, toujours en train de négocier tout, qui courait dans tous les sens, qui avait 10 000 projets à la seconde, qui épuisait tout le monde. Moi, je suis là et ce matin, je me dis, ok, tout va bien, c'est comme ça. Je me dis, putain, le chemin, je l'ai fait, quoi. Je suis super content, j'ai le droit de me faire de moi. Et peut-on aimer quelqu'un, mais décider de ne pas le voir car il ne nous fait pas du bien? Oui, bah, moi, j'ai fait ça souvent, en fait. Moi, j'aime les gens, il y a encore beaucoup de mes relations amoureuse, hein, que j'ai eu avec des gens que j'aime encore. Mais en fait, je les aime, mais c'est pas pour autant que je vivrai avec, quoi. Parce que justement, il y a toutes ces choses qui font que la relation serait pas correcte. Enfin, il y a quelque chose de pas correct, en fait, dans leur façon d'agir. Mais je n'ai pas à le juger, je n'ai pas à les condamner pour ça. J'ai juste à me poser la question de est-ce que c'est OK pour moi de les accompagner dans une vie s'ils sont comme ça? La réponse est non, quoi. La réponse est non. Et en fait, j'ai arrêté une relation avec quelqu'un parce que cette personne parlait beaucoup de faut pas mentir, faut se dire les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que cette personne, elle mentait. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement puéril. Je me suis dit, mais pourquoi entretenir ce discours permanent pour finalement être cette personne qui ment et qui ment lourd, quoi, tu vois. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai arrêté. Je dis, bon, voilà, on va s'arrêter là, en fait. On va s'arrêter là parce que c'est pas quelque chose qui arrive maintenant et qui serait une maladresse. C'est quelque chose qui dure depuis des mois. Je dis, pourquoi tu fais ça, quoi? Mais c'est pas grave, c'est OK, t'as le droit de le faire. Par contre, moi, je suis pas obligé de le subir. Je ne trouve pas que c'est normal d'être aimé par sa maman. Non. Non, je ne trouve pas que c'est normal d'être aimé par sa maman. Non, il y a des mamans qui ont du mal à aimer leurs enfants, il y a des enfants qui ont eu du mal à aimer leurs parents. Non, l'amour, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose. Tous les parents n'arrivent pas à aimer leurs enfants. Alors évidemment, la grande majorité, oui, alors on a l'impression que c'est un principe de base, mais non, il y a des gens qui sont terrorisés à l'idée d'avoir des enfants, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est même le fait d'avoir des enfants, il y a des gens qui maltraitent leurs enfants parce que c'est des gens qui ne savent pas aimer. Oui, non, enfin, je ne crois pas que ce soit normal. Non, c'est un travail. C'est un travail, c'est une relation. Voilà, et parfois on a l'impression d'aimer nos enfants en leur faisant du chantage affectif, en les obligeant ici et là, enfin peu importe quoi, mais ce n'est pas de l'amour en fait. On est en train justement de troquer notre relation d'amour pour le genre l'éducation. J'ai la responsabilité de son éducation, donc c'est normal que je le maltraite, c'est normal que je le gifle, c'est normal que je l'humilie devant ses copains. Non, en fait, non. Non, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Tu peux aussi respecter tes enfants, tu peux aussi leur parler bien. Moi, j'avais vu un film qui m'avait. Alors, je vais vous parler, c'est un truc qui c'est tellement anecdotique que vous allez dire, ouais, what else? Mais je trouve que c'est extrêmement puissant. En tout cas, ça m'a réveillé, ça a réveillé quelque chose de très fort chez moi. C'était un téléfilm. Franchement, je me raconte même pas. Sauf que il y avait un type qui était malade. Il était dans le lit et en fait, il y a son médecin qui venait et en fait, il était en train de diagnostiquer quelque chose d'assez dur. Donc une maladie qui allait probablement lui donner la mort. C'était en 1912. Enfin bref, c'était dans une campagne. Et en fait, il y a la fille du malade qui rentre dans la pièce, qui est une jeune fille qui doit avoir 8-9 ans. Et en fait, et il dit, qui dit Louise, elle s'appelle Louise la petite, je me rappelle encore de son prénom. Louise, je te présente le docteur machin. Et en fait, j'ai été secoué parce que je m'attendais à ce qu'on dise à l'adulte, je te présente ma fille. En fait, c'est Louise, je te présente le docteur machin. Et en fait, je trouvais que c'était un immense respect pour l'enfant de présenter le médecin plutôt que de présenter l'enfant au médecin. Tiens, je te présente mes enfants. Parfois, on ne dit même pas le prénom des enfants. Tiens, je te présente Louis et je te présente Cécile, mes enfants. Mais Louis et Cécile, je vous présente mon ami, machin. Là, c'est autre chose. Et j'avais vu ce truc, ça m'avait scotché. Et je me suis dit, putain, mais moi, c'est ça que je veux vivre avec mes enfants. C'est ce respect-là. Et voilà, et j'ai déterminé mon chemin, avant même de les avoir, j'ai déterminé le chemin que je voulais avoir avec eux relationnellement. Bon, on va s'arrêter ici, mes amis. J'espère que vous avez vraiment, je vais le résumer, hein, les exercices, mais j'espère que vous avez vraiment pris note parce que c'est super important. Donc, prenez le temps que vous voulez, mais prenez le temps pour travailler sur vos domaines de vie, donc perso, pro, amitié, amour, argent, etc., tous les domaines de vie, et posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui m'intéresse de vivre et de ressentir? Okay. Et quel type d'expérience j'ai envie de faire? Ça, c'est la première question. Ensuite, apprenez à expirer. Apprenez à expirer. Prenez le temps pour ça. Vous allez comprendre l'extraordinaire puissance qu'il y a derrière cet exercice. Et la troisième chose, c'est que si vous avez envie d'avoir un couple heureux, si vous avez envie d'avoir une vie professionnelle heureuse ou financière heureuse, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui est logique dans cette relation, qu'est-ce qui est tolérable, négociable dans cette relation, mais qu'est-ce qui n'est pas négociable, qu'est-ce qui est non négociable, rédhibitoire. Je vous propose vraiment d'aller chercher quelles sont vos frontières, de vous connaître là-dedans. À chaque fois que j'ai fait cet exercice-là, que ce soit dans des ateliers, j'ai travaillé ça avec Titan, j'ai travaillé ça avec Thèbes, à chaque fois que j'ai travaillé sur ces exercices-là, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de remerciements de gens qui disent, je n'imaginais pas que ça allait changer ma vie à ce point-là. Je n'imaginais pas que ça allait apporter autant de relations magnifiques, autant de respect dans ma vie. Et ça, c'est pas 10 ans plus tard, hein. C'est genre 2 mois plus tard. Les gens voient qu'il y a une vraie différence, simplement parce qu'ils sont au clair avec eux-mêmes. Connais-toi toi-même. Et c'est ça l'exercice qui vous permettra de le faire. Connais-toi toi-même. Dans une première partie, tu as parlé de la blessure d'abus. Y a-t-il un exercice pour aider à le dépasser? Ben, c'est celui-là, ma chère Corinne. C'est celui-là. C'est qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui est non non négociable, rédhibitoire. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est justement ce qui va déterminer la taille de la faille qui est ta faille d'abus. C'est-à-dire que, avec ça, on va se rendre compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se rend compte qu'on sait très bien ce qui est logique, mais qu'on accepte quand même des choses qui sont non négociables, qui seraient non négociables sur notre liste, parce que justement, on a une porte ouverte comme ça, et tout le monde qui rentre, qui fout les pieds sur le canapé, qui bouffe dans le frigo. Donc, c'est ça l'abus. Et donc, du coup, pour que l'abus s'arrête, il faut qu'on sache qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui est tolérable et qu'est-ce qui est non négociable. Fais cet exercice-là et ça te sortira de l'abus définitivement, ma chère amie. OK ? Bon, travaillez et puis surtout, n'oubliez pas de télécharger le cadeau, travailler sur ce cadeau aussi. C'est une petite formation, c'est gratuite, il y a des gens qui payent pour l'avoir. Hein. Je vous l'offre, c'est cadeau. Voilà, c'est ni Noël, c'est ni la Saint-Valentin, mais c'est quand même que de l'amour. OK ? Travaillez sur ça. Et puis après, si vous voulez nous retrouver sur le terrain d'entraînement pour travailler sur le processus de matérialisation, welcome, ok ? On en reparlera ça de toute façon, ok ? Reste à pratiquer tout à fait, Linda. Merci à tous, merci d'avoir été présents ce soir, merci d'avoir été présents aussi pendant les deux webinaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là pendant les deux. Et voilà, on se retrouve très très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao.